ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 21 mars, chez Robin Dorcy à Washington, accompagné de Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, encore une journée agitée à Bangui. Un incident entre la Miska et des civils a provoqué la fermeture de quelques entreprises privées et le bâtiment public.
Les enfants de la rue constatent que c'est le Seleka et ils le suivent jusqu'au niveau de la banque pour l'agresser.
La Miska est intervenue, nous en parlerons. Au Burundi, le Parlement n'arrive pas à voter sur la révision de la Constitution.
Nos partis majoritaires ont réussi à réunir 81 voix. Alors qu'il fallait avoir 82 voix pour passer au vote.
Le président russe Vladimir Poutine a promulgué la loi finalisant l'annexion de la Crimée. Réaction en Guinée sur le limogeage du gouverneur de Conakry, Sekou Resko Camara. Et ne manquez pas les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
En Centrafrique, panique ce matin au centre de Bangui. La Miska a ouvert le feu à balles réelles pour disperser des délinquants qui s'en prenaient à trois hommes accusés d'appartenir à la Seleka. Cette situation a provoqué la fermeture des commerces et administrations. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, vers 11h ce matin, trois musulmans venus pour leurs affaires en ville ont été pris à partie par des jeunes délinquants, les accusant d'appartenir à l'ex-rébellion Seleka. Selon Saoudi, l'une des victimes, plus d'une cinquantaine d'assaillants les ont agressés au moment où ils voulaient entrer dans la banque. Sur place, l'intervention des éléments burundais de la Miska a permis de sauver les trois hommes. Timothy Ndiaye Lamine, opérateur économique au centre-ville, déplore, lui, la méthode d'intervention du contingent de la Miska qui n'a pas dissocié les fauteurs de troubles des autres usagers.
J'étais au centre-ville, il y avait les Seleka, ils étaient venus à la banque, les enfants de la rue, constatés que c'est les Seleka, et ils le suivent jusqu'au niveau de la banque pour l'agresser. Les gens des banques, ils ont fait un appel au niveau de Miska Burundais, qui était venu pour disperser les gens. Devant nous, devant tout le monde, devant les autorités, ils étaient venus, ils ont descendu dans la véhicule, ils ont commencé à tuer par terre, et même il y avait des morts, il y avait des blessés.
Pour le moment, la force africaine n'a pas encore fait de commentaires sur cet incident et aucun bilan n'est encore disponible. En fin d'après-midi, une autre altercation a été signalée dans le quartier de Kpétené, dans le 6e arrondissement. Des tirs nourris à l'arme légère, dont la provenance reste inconnue, ont fait fuir plusieurs habitants de ce quartier.
Encore un incendie de marché au Mali. Après les marchés des artisans Medina Koura et celui du Kola, ce matin, c'est le marché rose de Bamako qui est parti dans les flammes. L'incendie, dont la cause n'est pas connue pour le moment, a totalement détruit le centre de l'un des plus célèbres marchés de la capitale malienne. Kassim Traoré.
Le feu a ravagé, pour ne pas dire réduire en cendres, le centre du grand marché de Bamako. Au moment où on passait, l'incendie n'avait pas été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. De nombreuses boutiques ont été détruites. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais le bilan des dégâts se hisserait à plusieurs milliards de francs CFA. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour le moment. Sur les lieux, les propriétaires des magasins assistaient impuissamment à ce feu qui a causé d'importants dégâts avec des magasins dévastés. Des tôles parties. Selon un témoin, les pompiers sous-équipés ont été aidés par des commerçants nantis de seaux d'eau. Ils n'ont pas pu venir à bout des flammes. Le syndicat des commerçants détaillants du marché rose estime la perte à plusieurs milliards de francs CFA. Il faut signaler que le marché rose de Bamako est le plus grand marché de la capitale malienne. Il était le marché des fruits et légumes de Bamako. De nos jours, il est devenu un grand marché avec des installations anarchiques, ce qui fait qu'il y a plus de commerçants que des magasins prévus officiellement. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'Assemblée nationale burundaise devait voter ce vendredi sur un projet de révision constitutionnelle. La réforme de la loi fondamentale engagée en catimini par le pouvoir burundais devait permettre au chef de l'État, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat. La société civile et l'opposition l'ont critiqué en affirmant qu'elle contenait les germes d'une fracture de l'équilibre ethnique du pays. Pour faire le point, nous avons eu au téléphone notre correspondant à Bujumbura, Eric Manirakiza.
Le projet de révision de la Constitution a été renvoyé au gouvernement parce que le parti majoritaire, c'est le parti au pouvoir, n'a pas eu la majorité requise et c'est les 4/5 des députés. Le parti majoritaire a réussi à réunir 81 voix alors qu'il fallait avoir 82 voix pour passer au vote. La prochaine étape, le gouvernement devrait faire recours au référendum, mais là, ça va s'annoncer très difficile parce que des organisations de la société civile et des médias, ces organisations n'étaient pas prêtes à cautionner toute remise en cause de l'accord d'Arusha et de la Constitution, ou qu'elles sont prêtes à user de tous les moyens pacifiques pour défendre l'accord d'Arusha.
En Libye, deux roquettes se sont abattues ce vendredi à l'aube sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de Tripoli. Les explosions qui ont eu lieu vers 5 heures du matin ont provoqué des dégâts et la suspension des vols jusqu'à samedi. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, l'aéroport de Tripoli est sous le contrôle d'ex-rebelles de Zintane, une ville située à 170 km au sud-ouest de Tripoli. Les autorités de transition ont échoué jusqu'ici à dissoudre ou désarmer ces groupes d'ex-rebelles qui font la loi dans le pays et contrôlent toujours plusieurs installations stratégiques.
Et puis cette nouvelle loi qui va être interprétée diversement, le Parlement du Kenya a adopté une loi qui permettrait aux hommes de se marier avec autant de femmes qu'ils le souhaitent sans consulter leur conjointe. La mesure qui a été adoptée lors d'une séance jeudi soir a incité les femmes membres du Parlement à quitter la salle. La disposition fait partie d'une nouvelle législation sur le mariage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a promulgué ce vendredi la loi finalisant l'annexion de la Crimée, un événement qu'il a qualifié de remarquable. Jean-Roger Bion.
La cérémonie de signature a eu lieu au Kremlin à l'issue d'un conseil de la Fédération. La chambre haute du Parlement russe a adopté à l'unanimité l'intégration de la péninsule de Crimée au sein de la Russie. La chambre basse a ratifié le traité jeudi, 4 jours seulement après le référendum qui a décidé du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Hier, le président américain Barack Obama a annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou et le ministère russe des Affaires étrangères a répondu en faisant savoir aujourd'hui que la Russie va répondre sévèrement à ces sanctions. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné au cours d'une conférence de presse aujourd'hui que la crise ukrainienne ne peut être résolue qu'en respectant le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au sommet des chefs d'État de l'Union européenne, le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a signé aujourd'hui le premier volet de l'accord d'association avec l'Union. C'est le refus des précédentes autorités ukrainiennes de signer ce document qui avait déclenché la révolte à la fin de novembre et la chute de Viktor Yanukovych.
Infructueuses les recherches pour retrouver l'avion de ligne malaisien disparu. La piste des objets repérés au large de l'Australie dans l'océan Indien n'a rien donné. L'avion s'est évaporé dans le ciel le 8 mars dernier avec 239 personnes à bord. Le vol 370 de la Malaysian Airlines reliait Kuala Lumpur à Pékin.
Un sommet USA, Corée du Sud, Japon la semaine prochaine aux Pays-Bas. La rencontre entre les dirigeants japonais, sud-coréens et le président américain Barack Obama est prévue en marge d'une conférence internationale, sur le nucléaire. À La Haye, la rencontre va porter sur la question du nucléaire sud-coréen, selon Séoul.
La première dame des États-Unis, Michelle Obama, a visité une école au premier jour de sa visite de 5 jours en Chine. Madame Obama était accompagnée de son homologue chinois, Peng Lihuang. Les deux ont participé à une démonstration de calligraphie ce vendredi avant de visiter l'ancien palais impérial de la cité interdite de Pékin. Au cours de ce voyage, la première dame des États-Unis va également visiter avec sa mère et ses deux filles la grande muraille de Chine, les célèbres guerriers de terre cuite et une réserve de pandas. Madame Obama doit prononcer un discours demain samedi dans la prestigieuse université de Pékin. Elle prévoit aussi de rencontrer le personnel et les familles de l'ambassade américaine à Pékin.
Voilà pour le journal. Il est 19h39 en temps universel, 15h39 à Washington, chez Romain Dorcil en compagnie de Bagassi Koura. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Retour sur la crise en République centrafricaine, Bagassi.
Oui, les miliciens anti-Balaka, l'école de la réconciliation et de la cohésion sociale, certains de leurs leaders ont suivi aujourd'hui à Bangui une formation organisée par l'ONG Vitalité plus les précisions de Nicolas Pinot.
Environ une trentaine de responsables de cette milice venus de Bangui et de l'intérieur du pays ont pris part à cette formation. Les relations entre non-musulmans et musulmans ont été au centre des échanges, déroulés à la maison Dorcas de Bangui dans le 4e arrondissement. Yvan Adala est le chargé des programmes de l'ONG Vitalité Plus.
Nous nous inscrivons dans la logique des activités de la cohésion sociale entreprise tant par le gouvernement, tant par les organisations humanitaires. La RCA a été secouée par une crise entraînant des pertes en vies humaines, des affrontements interethniques, interreligieux et quoi et autres. Et donc nous estimons qu'aujourd'hui, pour que la paix revienne, ce n'est qu'à travers la cohésion sociale. C'est pourquoi nous avons pris notre temps de multiplier les sensibilisations, les campagnes pour interpeller la conscience de tout un chacun afin que nous puissions retrouver la cohésion qui existait avant entre nous.
De leur côté, les anti-Balakas se disent prêts à se réconcilier avec les musulmans. Ils promettent par ailleurs de restituer ces acquis à leurs hommes. Thierry Lebert, dit 12 puissances, est chef anti-Balaka.
Mais nous sommes très d'accord pour la réconciliation. Notre objectif, c'est déjà atteint. Si nos frères musulmans, on les appelle frères parce que ce sont des humains, s'ils acceptent le pardon, la réconciliation, pour nous, nous sommes prêts parce que là, c'est notre pays. On ne peut pas nous transférer ici pour aller nous déposer à Yaoundé. C'est notre pays et c'est à eux maintenant d'accepter la réconciliation. C'est leur manière d'agir qui va nous convaincre d'accepter la réconciliation.
Alors que la recherche de la paix préoccupe à Bangui, un nouveau mouvement armé vient de s'annoncer dans le nord du pays, notamment dans l'Ouampende. Révolution Justice, RJ, c'est son nom. Selon son chef Armel Sayo, l'objectif de RJ est de combattre les ex-Séléka et d'assurer la stabilité du territoire centrafricain.
Nous allons maintenant en Guinée, où le président Alpha Condé a limogé le gouverneur de la ville de Conakry.
Oui, l'ex-membre de la junte qui a pris le pouvoir après le décès de Lansana Conté, le commandant Sékou Resko Camara, est inculpé par la justice guinéenne pour des faits de torture sur la base d'une plainte des 17 présumées victimes.
Alors, il faut dire que son départ du gouvernorat est diversement commenté dans la capitale guinéenne, comme nous le dit notre correspondant Zakaria Camara.
Certains médias le qualifiaient de Zorro pour sa gestion de la ville qu'il jugeait musclée. Le départ du commandant Sékou Resko Camara reste l'un des sujets les plus commentés dans la capitale.
Moi je pense que ce n'est pas un problème quand on sait que le monsieur il a fait son temps, il a travaillé. C'est vrai, il a fait des positivités mais aussi des négativités.
Dans ses interventions dans les médias, bon, il n'est pas tellement cadré. Bon. Donc il donne des promesses qu'il ne peut pas tenir. Et il appartient au gouvernement de prendre des mesures par rapport à une situation, par exemple, quand les populations n'ont pas d'eau, d'électricité.
Moi, je dirais que je vis bien, qu'il soit là ou pas, bon, ça ne change rien à ma vie, quoi.
On n'est pas venu rester au pouvoir éternellement. Reste à faire son mieux. Il faut qu'on tente une autre personne aussi, c'est comme ça.
C'est le dernier gouverneur de la capitale nommé par l'ancien président Lansana Conté qui retourne au gouvernorat. Le désormais ex-secrétaire général du ministère de l'Élevage ne fait pas l'unanimité. Pour certains, c'est la continuité et pour d'autres, il faut accorder une chance à Souriba Sorel Camara.
C'est comme si c'était Resko encore qui allait continuer à rester là parce que c'est les mêmes consignes que le nouveau gouverneur va essayer d'appliquer. Quoi.
Le monsieur qui a été nommé gouverneur de la ville de Conakry, il est d'une notoriété bonne. Je pense qu'il est mieux placé pour accompagner en tout cas cette ville dans le bon sens.
Le gouverneur sortant est inculpé pour des faits de torture et poursuivi par 17 victimes. Selon le décret, le commandant Sékou Resko Camara est appelé à d'autres fonctions. Et pour cet éditorialiste, il pourrait s'agir d'une occasion de l'éloigner de la justice.
Resko Camara, c'est avant tout un homme qui a eu maille à partir avec la justice, que ce soit dans des affaires privées, tantôt avec les commerçants, tantôt pour abus de pouvoir, parfois même pour agression sur des avocats. Donc les dossiers ne finissent pas. Mais moi je suis inquiet. Puisque le décret, le limogeant, précise qu'il est appelé à d'autres fonctions. Et quand on connaît combien de fois le président Alpha Condé est imprévisible, ne soyons pas étonnés de voir Sékou Resko Camara rebondir très rapidement, soit à un poste militaire peut-être, qui sait, attaché à une ambassade. Quelque part où on ne pourra pas venir le chercher.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le gouvernement togolais veut réduire la cherté de la vie et comment ? En renonçant aux taxes de douane sur certains produits importés de première nécessité.
Oui, mais Monsieur Rubin, l'annonce faite par les autorités togolaises ne séduit ni les consommateurs ni les syndicalistes, nous dit notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Depuis le 16 janvier dernier, date à laquelle le gouvernement togolais a procédé à l'augmentation du prix des produits pétroliers, le pouvoir d'achat des Togolais s'amenuise au jour le jour. Pour atténuer un tant soit peu l'effet de cette augmentation, le ministère du Commerce a annoncé la semaine dernière une mesure d'accompagnement. Bernadette Legezim Balouki, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé.
La mesure consiste à imposer une réduction de 115% de taxes de douane sur les produits de première nécessité. Si je prends un exemple, le sac de riz de 50 kg qui doit être imposé aux taxes de douane sur une valeur de 12 500, l'État a décidé que ça soit imposé sur une valeur consensuelle de 3 000 pour stabiliser le prix sur le marché.
La mesure annoncée par le gouvernement ne draine pas assez d'enthousiasme à l'Association togolaise des consommateurs. Agouta Aladou, porte-parole de l'ATC.
C'est une bonne chose a priori. Mais dans le même temps, nous sommes un peu perplexes parce que depuis 2008 jusqu'à ce jour, nous constatons sur le terrain que les prix ne cessent que d'augmenter sur ces mêmes produits dont ils disent qu'ils ont fait des détaxes. Donc il faudrait que le gouvernement prenne des mesures qui puissent rendre vraiment effective une telle décision. Les consommateurs ne ressentent pas la décision du gouvernement dans leur assiette.
La Ligue des consommateurs du Togo, quant à elle, propose une homologation des prix des produits de première nécessité. Emmanuel Sogadi, président de la LCT.
À la Ligue des consommateurs, nous ne sommes pas convaincus de la disposition que le gouvernement prétend prendre. Nous, on demanderait à l'État d'homologuer certains biens de première nécessité. Par exemple, le sac de riz lorsqu'on achète à Lomé à 1000 francs, qu'on puisse l'acheter également à Dapon à 1000 francs. Parce qu'on ne peut pas permettre à ceux de Lomé d'acheter un riz à 1000 francs et accepter volontairement que ceux de Dapon achètent à 2000 francs. Même si l'État a diminué de 15% la taxe douanière, le commerçant ne va vouloir pas réduire ses coûts-là.
Une semaine après cette annonce, les partenaires sociaux se sentent mis à l'écart. Sébastien Tévi, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, CSTT.
Il faudrait quand même que les organisations syndicales soient saisies des mesures concrètes que le gouvernement a. Et en ce moment, nous allons l'analyser et nous ferons le relais pour expliquer aussi à nos mandants, à nos militants, voilà l'effort que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, secrétaire général de la CSTT, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il y a un problème de communication dans ce pays qu'on doit régler absolument.
Le ministère du Commerce prévoit faire prochainement des contrôles sur les marchés pour vérifier l'effectivité de la stabilité des prix. Kyle Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
La Russie consolide son emprise sur la Crimée et le président Barack Obama lui se dirige vers l'Europe pour des entretiens avec les alliés. C'est dans le but de faire pression sur Moscou, bien sûr, Lionel Gaïma.
L'annexion de la Crimée apparaît pour certains comme une fatalité. Mais le président Barack Obama n'abandonne pas les efforts visant à mettre fin à la crise par la diplomatie et l'imposition des sanctions. La diplomatie entre les États-Unis et la Russie continue. Nous avons souligné que la Russie a encore une autre voie possible, celle où elle cherchait à calmer la tension, où elle recherchait une solution diplomatique avec le gouvernement de Kiev, avec le soutien de la communauté internationale. Le président des États-Unis va parler avec ses partenaires d'un programme économique pour l'Ukraine, mais aussi des nouvelles sanctions contre la Russie. Sa première escale sera à La Haye, aux Pays-Bas. Contrairement aux précédentes réunions du G8, la Russie, cette fois, sera absente de la table. Le président Obama a invité ses homologues du G7 à une rencontre à marge d'un sommet sur la sécurité nucléaire pour parler de la manière d'isoler Moscou. Dans cet effort, M. Obama a un allié improbable, la Chine, qui a remis en question les actions de la Russie en Crimée. Le président américain et le leader chinois Xi Jinping ont prévu un tête-à-tête. Et puis, le chef de l'exécutif américain mettra le cap sur Bruxelles pour des sessions avec l'Union européenne et l'OTAN. En l'absence de progrès visible à ce jour dans les efforts pour obtenir le retrait de Moscou de la Crimée, M. Obama aura un message à livrer à ses alliés de l'Alliance Atlantique. Le soutien de l'Amérique à nos alliés de l'OTAN est inébranlable. Nous sommes liés ensemble par notre engagement profond, dans le cadre de l'article 5, à nous défendre les uns les autres et par un ensemble de valeurs communes qui ont été l'objet des sacrifices de tant de générations. La dernière étape de cette tournée européenne du président américain sera à Rome, en Italie, pour sa première rencontre avec le pape François. Ils vont surtout parler de la lutte contre la pauvreté et l'inégalité sociale. De là, Barack Obama prendra l'avion pour l'Arabie Saoudite. La guerre en Syrie et les ambitions nucléaires de l'Iran devaient être à l'ordre du jour lorsque le président américain s'entretiendra avec le roi Abdallah pour ce que les analystes appellent une continuation des efforts de Washington en vue de réaffirmer son soutien au royaume saoudien.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Oui, la Chine va envoyer 5 navires et au moins 3 avions pour aider à retrouver l'avion de ligne malaisien porté disparu depuis le 8 mars. Mais les recherches s'intensifient dans une zone où des débris avaient été repérés le 16 mars par des satellites. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le vice-premier ministre australien Warren Truss a dit à la presse aujourd'hui à Perth qu'il est possible que ces objets qui flottaient dans la zone sud de l'océan Indien aient coulé. Selon les autorités australiennes, 2 avions P-3 Orion de l'armée de l'air nationale et un P-8 Poseidon de la marine américaine ont pris part aux recherches de ce vendredi qui s'est déroulée sur quelques 2000 km² en mer. Après l'échec des tentatives de localisation par radar des débris de l'avion malaisien, de nouvelles tactiques ont été adoptées, a expliqué John Young, directeur général de l'autorité australienne de la sécurité maritime.
We have replanned the search to be visual. So,
nous avons revu les plans de recherche pour procéder de manière visuelle, si bien que les avions volent très bas avec à bord des experts chevronnés qui scrutent l'océan pour voir d'éventuels débris. Cela veut dire que les avions volent en formation serrée et nous aurons besoin de plus d'avions pour ce genre de recherche, a-t-il expliqué. De leur côté, les autorités malaisiennes signalent que 3 avions chinois et 2 appareils japonais Orion P-3 font route vers la zone de recherche. En outre, la Grande-Bretagne va envoyer son navire de recherche HMS Echo dans le sud de l'océan Indien, a indiqué aujourd'hui le ministre malaisien des Transports, ajoutant que son pays allait demander au Pentagone de mettre à contribution des équipements plus spécialisés, y compris des véhicules sous-marins. L'Australie, qui est maintenant le principal pays prenant part à ces recherches, y a mis toutes ses ressources, a dit son premier ministre Tony Abbott.
Now, it could just be a container that's fallen off a ship.
Ça peut être un conteneur tombé d'un cargo, nous ne savons pas. Nous devons aux familles et amis de quelques 240 personnes à bord du vol MH370 de tout faire pour résoudre ce qui reste un extraordinaire énigme, a déclaré le premier ministre Tony Abbott. La Chine dit avoir ordonné à 2 de ses flottes, respectivement à 4000 et 5000 km de la zone de recherche, à faire route vers ce lieu tout en procédant à des recherches dans les régions traversées. Pour les proches des personnes à bord de l'avion disparu, c'est l'agonisante attente qui continue.
Voilà, c'est la voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports. Bonsoir Nicolas Pinot.
Bonsoir Bagassi.
En football, on connaît depuis aujourd'hui donc l'affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, de belles affiches en perspective. Le Paris Saint-Germain qui jouera son quart de finale contre Chelsea selon le tirage au sort effectué ce vendredi. Agneau au siège de l'UEFA. Le derby espagnol avec le FC Barcelone opposé à l'Atlético Madrid. Le Real de Madrid fera face au Borussia Dortmund. Enfin, le champion en titre, le Bayern de Munich qui affronte Manchester City.
Alors c'est vendredi, messieurs, on peut se permettre quelques bouffonneries.
Et moi, l'affiche qui m'intéresse le plus, c'est Paris Saint-Germain-Chelsea, hein, je l'ai déjà dit à la première demi-heure.
Et oui, notamment Samuel Eto'o hein, qui retrouvera le Parc des Princes et on retrouvera les grandes stars comme Zlatan Ibrahimovic. On va voir aussi hein, si le PSG a le niveau, le PSG
et
version
si
Qatari.
Le PSG pourra être rejoindre son grand rival, l'Olympique de Marseille.
Pour remporter le titre. Un club français n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 1993.
Et un PSG champion voulait dire 1 million d'euros pour chaque joueur.
Pour chaque joueur, c'est ce qu'avait annoncé l'équipe.
Alors la Ligue Europa, Nicolas, aussi a livré son verdict.
La Juventus, le club italien leader de la Serie A, qui affronte l'Olympique Lyonnais en quart de finale. Dans les autres rencontres, il y aura un duel entre anciens vainqueurs de la C3, FC Porto, FC Séville. Également un autre vainqueur, le Valence FC, qui jouera contre le FC Bâle. Et puis les Portugais de Benfica joueront contre les Néerlandais, le LED Alkmaar.
Changeons de continent.
Et oui, c'est toujours de la Ligue des champions, mais la Ligue africaine. Le choc ce soir entre Ali Benghazi et Ali Duker au stade de Zouiten de Tunis. Et demain, suivre les Maliens du Real Bamako contre l'Espérance de Tunis et de le Nkana FC qui accueille le club égyptien du Zamalek.
Et ça, c'était les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Maintenant en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oklahoma City est la troisième équipe après San Antonio et Indiana à avoir atteint le chiffre symbolique des 50 victoires après son succès de Cleveland 102 à 95 la nuit dernière. Houston a écrasé Minnesota 129 à 106 et Portland a confirmé son renouveau avec un troisième succès en 4 matchs devant Washington 116 à 103.
Merci Nicolas.
Merci Nicolas.
Merci messieurs.
Après les sports, la musique. Zaina fait de la musique il y a plus de 10 ans. Elle fait du makossa, de la rumba, du bikutsi et du zouk. Dans notre récent entretien, nous avons voulu comprendre pourquoi elle a préféré Bagassi, le gospel, dans son tout premier album. Alors on écoute Zaina au micro de Roger Munto.
Commencer avec un album gospel parce que je me dis, ce don que je l'ai eu, ça vient de Dieu. Pourquoi ne pas lui rendre ce premier hommage, lui dire, Dieu, tu m'as donné cette voix, je te dis merci. Si. Pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Dans cet album, il y a aussi un titre qui est Les Bienfaits. Intitulé Les Bienfaits, c'est juste pour dire merci à Dieu pour ce don qu'il m'a donné. Je ne l'ai pas volé, il me l'a offert. Donc, je dois lui dire merci. Seigneur. Tous devant.
dire qu'on a été un peu à l'église avec Roger Montou ce soir.
Oui, et vous savez que Zeina vit ici dans le Maryland.
Ah bon, je ne le savais pas.
Non loin de Silver Spring, je crois même que c'est à Silver Spring. Hein.
Ah bon, c'est tout près de chez nous alors.
Oui, tout près de chez nous. Elle était ici à la Voix de l'Amérique il y a une semaine ou deux.
Ah, bon, il faut l'inviter à nouveau.
Voilà,
merci.
Comme ça on pourra écouter assez de Makossa.
Merci Roger Montou, que nous retrouvons d'ailleurs tous les soirs à 20h, temps universel, dans le RM Show. C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Morissin, accompagné de Lionel Shorter à la technique.
Josel Morissin. Vous avez dit Lionel Morissin.
Ah bon, Lionel Gaïma, Josel Morissin. Voilà. Ici Dorsil.
Et Bagassi Courant.